Eh bien, bonjour pour ces 9e imaginales. On est parti pour 4 jours. 4 jours de fantasy, c'est quand même le cœur de notre festival. 4 jours de fantastique, 4 jours d'anticipation, de romans historiques, de contes et légendes, de réalisme magique. Enfin, 4 jours d'imaginaire avec 120 auteurs invités, de toute la France, bien sûr, mais aussi d'Espagne, de Grande-Bretagne et des États-Unis. C'est d'ailleurs les États-Unis qui seront présents à cette table, puisque nous avons Greg Kiss à ma gauche, à votre droite, et Christine Cachor, qui sont donc deux grandes signatures de la fantasy américaine contemporaine. Et puis Charlotte Bousquet, qui elle fait partie de la encore très jeune génération française, mais déjà reconnue, puisque d'abord elle a une production assez diverse, littérature jeunesse, chez Mango, roman historique, et puis, mais ça on en parlera à d'autres occasions, d'autres cafés littéraires, et puis aussi de la fantaisie pour adultes aux éditions Mnemos. Christine Cachor, elle, est publiée aux éditions Orbite, et Greg Keys au Fleuve Noir, une des maisons d'édition avec Orbite, partenaire du festival. Alors ce début, la fantaisie c'est magique, on excusera simplement Crystal Camprubi, qui est l'auteur de l'affiche magnifique du festival que vous avez vu. C'est une jeune maman, elle allaite, c'est pas un secret. Donc ça a quelques impératifs et parfois on peut avoir quelques petits soucis. On était prévenus pour ce début de festival, mais on la retrouvera dans les cafés où elle a pris ses dispositions de façon précise avec son compagnon. Donc le festival débute et il débute sur l'idée justement que la fantaisie c'est magique. Alors on le dit assez souvent. Les auteurs nous l'écrivent. Christine Cachor, la magie dans vos livres, et en particulier le premier qui a été traduit en France, Gressling, bah cette magie, elle est au cœur de cette société que vous nous décrivez, puisque les personnages de Gressling, certains d'entre eux en tout cas, ont des pouvoirs. On repère que ces personnages sont des Gressling, ces personnages à pouvoir. Mais on ne sait pas, quand ils sont jeunes, quel est leur pouvoir jusqu'au moment où il va se révéler. On ne va pas révéler tout de suite, on le dira plus tard, quel est le pouvoir de l'héroïne principale de ce roman. Mais pourquoi avez-vous, dès votre premier livre, c'est le premier en fait je crois, Gressling, aux États-Unis, c'est le premier aussi, hein, c'est bien ça. Pourquoi dans Gressling, vous avez choisi ce premier roman tout de suite d'utiliser la magie dans votre univers? Qu'est-ce que ça apporte, la magie, dans un roman?
Oh, that's a good question. Une bonne question.
For me, it was simply a matter of when my books start with characters. And for me, it was simply a matter of when these characters came to me, they came with these powers intact. So I didn't have a choice. I had to write about magic.
En fait, mes livres commencent toujours par les personnages. Et lorsque le personnage donc de cette héroïne, Katsa, est venu, il est venu avec des pouvoirs magiques. Le personnage est apparu comme ça, et donc je n'ai pas eu d'autre solution que d'utiliser cette magie et de l'intégrer au roman.
But the way I thought about the magic in my book is that each magical ability, it's really just an extreme version of something that humans can do.
Et en fait, lorsque j'envisage la magie dans ce roman, en fait, chacune des capacités magiques que possèdent les personnages n'est en réalité qu'une espèce de version poussée à l'extrême de capacités que tous les humains peuvent avoir.
So I kind of had this developed this sense of a more realistic familiar sort of magic, I guess.
Et donc j'ai développé en fait une espèce de magie qui peut-être est plus familière que ce qu'on peut voir dans d'autres romans.
Greg Kiss, vous utilisez aussi la magie dans vos livres, mais j'ai l'impression que c'est plus directement la mythologie, c'est plus les pouvoirs qui est au cœur de votre fantasy. Est-ce que je me trompe?
No, that's correct.
Non, c'est correct.
I think, you know, my studies are in anthropology.
J'ai étudié l'anthropologie, en fait.
And specifically in the anthropology of myth and religion.
et spécifiquement l'anthropologie avec en ce qui concerne les mythologies, les mythes et la religion.
And I think this comes from the fact that when I was young, I lived on the Navajo reservation.
Navajo, yeah. Et je pense que ça vient du fait que quand j'étais jeune, je vivais dans une réserve Navajo des Indiens d'Amérique Navajo.
And this, the landscape there is considered, you know, every tree, rock, river, place has some sort of spirit associated with it.
Et en fait, dans le paysage qui entoure cette réserve, ils imaginent que dans chaque arbre, chaque rocher, chaque rivière, il y a un petit esprit qui est associé à ces éléments.
So my first novels were about that, about you know, a world in which this was literally true, because I think that landscape haunted me, you know, since living there.
Et donc voilà, mes premiers livres donc parlaient de ça, donc les élus du Changelin parlent de ça. Parce que je pense que c'est ce genre de paysage et l'association des esprits avec les paysages m'a hanté d'une certaine façon durant toute ma vie depuis.
And then in later books, like The Age of Unreason, you know, I was looking at European beliefs of the 18th century and things like alchemy and.
Et en ce qui concerne le cycle de l'âge de la déraison, je regardais plutôt l'alchimie, par exemple, les croyances du 18e siècle européen.
So yes, I think it's fair to say that my books are underpinned by mythology and you know my thinking toward that.
Et donc oui, je pense qu'il est juste de dire en effet que mes livres tournent plutôt autour de tout ce qui est mythologie. Et juste la mythologie, ouais.
Charlotte Bousquet, vous la magie dans vos romans, je pense aux deux de qui sont parus donc chez Mnemos, Arachnae et Citeriae, que je viens d'ailleurs de lire il y a 4-5 jours, donc c'est tout frais dans ma mémoire. Ce qui m'a beaucoup frappé en même temps, je pense à, j'ai plus le titre en tête, votre roman policier qui se passe...
Noir Lagune,
absolument, aux éditions Gulfstream. Et donc, ces trois livres se situent dans une sorte de Venise. Alors l'un, un roman historique ouvertement revendiqué, et là, on ne dit jamais, c'est un autre nom, mais c'est quand même l'influence de l'univers vénitien. Chez vous, la magie, c'est la passion d'une ville ?
C'est la passion d'une ville, oui. D'une certaine manière, oui. C'est dans la mesure où la ville construit les gens, la ville crée ses propres mythes et tisse des toiles en général. La magie, d'Arachnae, c'est d'être quelque part une espèce d'entité vivante qui va engloutir ses habitants, qui va tisser des toiles, qui va décider de la destinée des gens. Dans Citeriae, c'est peut-être beaucoup plus léger, et ça va être peut-être une forme de magie, je dirais autre avec un grand A, hein, qui vient des profondeurs, qui vient de quelque chose de plus chthonien. Voilà.
Oui, là aussi, c'est une allusion à celle qui tisse nos destinées.
Exactement, au moir.
Et ça aussi, ça renvoie aux mythologies, y compris de l'Antiquité.
Mythologie grecque et latine, essentiellement.
Donc, quand on voit nos auteurs, on voit très vite que, contrairement à ce qu'on a souvent dit, d'ailleurs, pas aux imaginales, bien sûr, la fantaisie, puisqu'on a trois auteurs qui écrivent en particulier ou essentiellement de la fantaisie, elle plonge ses racines vraiment dans la tradition, dans l'histoire et dans la mythologie. Et y compris ce qui est notre histoire commune, même si parfois on l'a oublié, la tradition gréco-latine. Et la magie, visiblement, elle vient de très très loin, c'est-à-dire à la fois dans votre écriture, dans ce que vous imaginez, mais vous vous appuyez sur un socle historique. Et ça, peut-être qu'on ne le voit pas suffisamment. Est-ce que chez vous, Charlotte Bousquet, c'est une démarche volontaire et consciente? Ou est-ce que c'est venu comme ça et voilà, est-ce qu'il y a de l'intention ou est-ce que c'est simplement le livre qui s'est construit ainsi?
Disons qu'il y a deux parts. Une partie qui est tout simplement, je crois, de mon bagage de philosophe de formation. Donc forcément, ayant lu, absorbé, digéré, redigéré énormément de mythologie, énormément d'analyses psychanalytiques de mythes et de contes. Donc c'est vraiment, je pense, qu'il y a quelque chose qui est complètement intégré à ma manière de penser et à ma manière d'écrire. et une partie consciente qui est que franchement moi c'est quelque chose qui m'intéresse et que pour moi les grandes lignes peut-être de l'imaginaire de toute façon trouvent leurs sources et des sources très profondes dans les mythes et les légendes qui ont créé l'humanité, donc je les retravaille. L'histoire du destin et des moires bon, qu'on retrouve quand même beaucoup sous diverses formes dans les mondes imaginaires, dans la fantasy, est quelque chose qui permet en fait énormément de variations humaines et qui permet finalement de montrer comment on se dépatouille en tant qu'être humain avec sa destinée, comment trouver des excuses, comment on essaie d'y échapper. Et c'est ça aussi qui est très très intéressant dans ce côté poids.
Je regardais récemment un nombre de textes de fantasy française et de nouvelles et de romans, et je m'apercevais, c'est assez nouveau quand même relativement, que des gens comme Leuvenbruck ou toute la nouvelle génération commencent à utiliser l'histoire et la tradition française pour raconter les histoires. Ça me paraissait moins évident dans la fantasy américaine, non pas parce que nos amis américains n'ont pas d'histoire, c'est évidemment caricatural, ils ont une histoire récente, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais... Ce que disait Grecki, justement, c'est qu'il avait utilisé cette tradition antérieure à l'arrivée des Blancs aux États-Unis, c'est-à-dire la tradition indienne. Est-ce qu'il est le seul aux États-Unis, ou est-ce qu'il y a un courant d'auteurs américains de fantasy qui se réapproprie, comme, de façon évidemment différenciée par l'écriture et par l'imaginaire, cette tradition mythologique, et y compris cette tradition historique qui est celle des Indiens.
I'm certainly not the only one, and I'm not the first one, I think, to use Native American traditions in writing.
Bon, je suis certainement pas le seul et pas le premier à utiliser la mythologie indienne des Indiens d'Amérique.
But I'm not sure. Unfortunately, I'm not that familiar with what's being sold right now. I think it kind of goes in and out of fashion.
Malheureusement, je ne suis pas tout à fait certain de ce qui se fait actuellement et de ce qui se vend, mais je pense que ça va et ça vient, ça passe de mode, ça revient à la mode.
And I think it also calls into question what really we mean by fantasy, because there have been a lot of Native American authors who wrote books which contain, you know, their beliefs and mythologies, but which aren't marketed as fantasy.
Mais on a aussi des auteurs indiens, d'Indiens d'Amérique, qui écrivent des livres qui contiennent de la mythologie, qui contiennent des histoires d'esprit, tout ça, mais qui ne sont pas marqués, qui ne sont pas identifiés en tant que fantasy.
Je voulais aussi reprendre un petit peu, Christine Cachor, Grassling, vos personnages ont des pouvoirs. Et ce qui me paraît intéressant dans la fantasy en général, mais dans ce livre en particulier, c'est la façon dont l'environnement réagit à ses pouvoirs. Les personnages ne l'ont pas demandé, n'ont pas étudié, n'ont pas souhaité. Simplement, les hasards de la vie, de la génétique, on ne nous le précise pas d'ailleurs dans Grassling, ils ont ce don. Tel ou tel don, encore une fois, je ne veux pas révéler quel est le don du personnage principal. On aura l'occasion d'en reparler dans un entretien plus long avec Christine Cachor. Donc, dans Grassling, ce qui est frappant, c'est la réaction de l'environnement. Le pouvoir, la capacité, le don, ça fait peur aux autres.
I think my books in the United States are published for a young adult audience.
En fait, mes livres aux États-Unis sont publiés en direction d'un public jeunesse.
And I think, oh my goodness!
So you have a gift.
les dieux se rebellent.
I think that I tend to tell stories that are coming of age stories, and the powers that these characters have might serve as metaphors for every person who's trying to come to terms with who they are. With people not accepting them for who they are.
Donc en fait, les histoires que je raconte sont dans les personnages. Ce sont souvent des personnages qui sont en fait à l'aube de l'âge adulte, qui doivent grandir, qui doivent évoluer, Et c'est en fait une métaphore pour tous les gens qui doivent apprendre à accepter ce qu'ils sont, qui doivent grandir ou qui quelquefois n'acceptent pas ce qu'ils sont.
I just think that the process of becoming comfortable with yourself and how you fit into your world is, at least in my experience, it doesn't stop once you become an adult, and I just really love exploring that issue.
En fait, ce processus de finir par découvrir qui on est, ce qu'on est à l'intérieur et comment on s'adapte à son environnement est en fait un processus qui ne s'arrête pas même à l'âge adulte, il continue. Et en fait, j'aime continuer d'explorer ça et voir où ça mène et toutes les implications que ça peut avoir.
Charlotte Bousquet, quand vous présentez dans cet Eriae un personnage important, c'est un personnage de nécromant, de magicien. Mais on sent là aussi, un peu comme dans Grasling, le livre de Christine Cachor, que la société et les autres personnages réagissent de façon différenciée par rapport à ce pouvoir. C'est important pour vous ce type de thème dans la fantasy ?
La différence, oui. Et c'est pour ça que en fait, ce que j'ai trouvé intéressant de développer, c'est qu'effectivement, Angelo est nécromant, c'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui va... parler peut-être aux morts, ou se trouver à la frontière des mondes, être capable de comprendre des créatures comme des lamias et ce genre de choses. Et en même temps, je crois que c'est un des seuls personnages du roman qui accepte le fait d'être en marge et qui accepte ses pouvoirs. Et je trouve que c'est justement ça qui est intéressant, c'est de montrer comment faire avec finalement, comment le jeu des apparences peut être contourné, inversé, et ce genre de choses. Et c'est vrai que la magie permet ce jeu.
La magie, le pouvoir, ce qui irrigue dans les élus du Changelin, Greg Kiss, c'est aussi ce fleuve que va emprunter Perkar, le héros. Alors évidemment, ça nous renvoie, je pense, à des fleuves mythologiques. Peut-être que c'est aussi une allusion au fleuve de Tom Sawyer, qui est quand même un grand roman référentiel américain, et peut-être aussi une référence parfois au fleuve des enfers, ça pourrait devenir celui-là. Pourquoi vous avez mis ce fleuve? Moi, ça m'a frappé, évidemment, comme tous les lecteurs. Quel est le rôle que joue ce fleuve qui traverse les terres et qui conduit quelque part le personnage à des découvertes? Mais on ne va pas en dire trop non plus, pour ne pas vous gâcher le plaisir de découvrir le roman.
I think I'm asked why, if it maybe is the Mississippi River, because I'm actually from Mississippi.
Oui, en fait, on pourrait me demander si c'est pas le fleuve Mississippi ou la rivière Mississippi, parce que je suis née dans le Mississippi moi-même.
But actually, I was thinking more of the Nile.
Of the what?
The Nile.
Ah, mais en fait, je pensais plutôt au Nil.
I had an idea in freshman history class about we're talking about civilizations that have to control rivers in order to exist.
En fait, l'idée m'est venue dans un cours d'histoire, parce qu'on parlait des peuples qui contrôlaient l'eau et qui avaient une relation comme ça très étroite avec des rivières ou avec de l'eau.
And I thought, what if there was a civilization in which the river were literally sentient, literally alive?
Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça donnerait si dans ce genre de civilisation, l'eau avait vraiment le contrôle sur les gens?
But I had no story to go with this, and so this idea sat in my head for 10 or 15 years.
Mais en fait, bon, j'avais pas d'histoire pour aller avec cette idée, donc l'idée restait dans ma tête pendant des années, peut-être 20 ans.
And then when I was teaching a class in anthropology and teaching about Homo erectus, early prehistoric humans.
Oui, en fait, et quand moi-même j'ai enseigné l'histoire, j'enseignais un cours d'histoire, je parlais du passage de l'Homo erectus, en fait, je parlais de toute cette période-là.
I had an image of a bunch of these not quite human beings in a forest someplace, and I realized that that's where the river started.
Et donc j'avais en tête cette image d'Homo erectus, en fait, de gens qui ne sont pas encore vraiment des êtres humains. Et là, tout d'un coup, ça s'est relié à l'idée du fleuve et de la rivière.
So then I realized that the river is connecting this place where there's no civilization to this place that has cities.
Et donc, en fait, je me suis dit que la rivière pouvait connecter cet endroit où il n'y avait aucune civilisation, l'endroit des pré-humains, à l'endroit où il y avait des villes et de la civilisation.
And it's connecting a place that has hundreds of gods and spirits with a place that's only got one, the river.
Et donc, en fait, ça connecte un endroit où il y a des centaines d'esprits différents, des esprits de la forêt, il y a plein d'esprits, à la ville où il n'y a qu'un seul dieu, le dieu du fleuve.
And, you know, not surprisingly, my two main characters are at opposite ends of this river at the beginning of the book.
Et sans que ce soit très surprenant, d'ailleurs, mes deux personnages principaux vivent à l'opposé, aux extrémités opposées du fleuve.
Là aussi, Charlotte Bousquet, quand on reprend vos deux romans, puisque c'est un cycle, alors chaque roman est indépendant, une histoire autonome, mais dans le même univers.
Avec un fil rouge pour les lecteurs assidus, entre guillemets.
Voilà, absolument, mais chaque roman peut se lire néanmoins séparément. C'est pas plus mal de démarrer par Arachnae, mais bon, il n'y a pas de...
C'est pas d'obligation.
Non, pas d'obligation. On ne peut pas parler de suite, c'est plutôt un univers collectif.
C'est-à-dire ?
C'est plutôt, un univers où chaque récit... Mauvaise formule, univers collectif. Chaque récit est indépendant. Il y a donc un fil rouge, mais on n'est pas obligé, en fait. C'est pas une série.
Tout à fait.
C'est ça que je veux dire. Non, parce que c'est important. En fantasy, on est très habitué aux séries. Et ce qui est très bien aussi, une fois qu'on est addict, c'est comme les bons feuilletons, et souvent anglo-saxons, on poursuit. Mais bon, c'est intéressant aussi d'offrir cette idée-là. C'est peut-être des îles aussi, quelque part.
C'est un archipel, donc forcément, avec quelques personnages qu'on peut retrouver de manière ponctuelle d'un livre à l'autre. Mais c'est aussi très addictif pour un auteur de pouvoir recréer quelque chose à chaque fois et de retrouver une magie de création. Quand on est installé dans un univers, pour une suite, c'est un petit peu lassant. Et là, c'est vrai que ça permet à chaque fois de renouveler quelque chose, de trouver d'autres petits points d'attache.
Des îles, décidément, je ne l'ai pas fait exprès. Il y a des points communs, quelque part, même si vos univers sont très différents. La fantasy, c'est magique, c'était le thème donc, de ce café littéraire. En quoi, pour vous, Charlotte Bousquet, ça a été magique de vous mettre à écrire de la fantasy ?
Parce que j'ai pu trouver un univers qui ouvre toutes les portes et qui n'a pas de fin et qui permet, en fait, d'explorer toutes les facettes de l'humanité, de poser poser toutes les questions que moi j'avais pu me poser pendant mes études de philosophie et d'y trouver, je dirais presque des applications. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que sur la quête d'identité, sur le mal aussi énormément. J'avais travaillé sur le mal, donc existe-t-il une réelle frontière entre le bien et le mal ? Et la fantaisie permettait pas forcément de répondre à ces questions, mais au moins de les poser de manière différente et d'essayer de trouver des facettes différentes d'approche. Et c'est ça qui a été vraiment magique et qui fait qu'on a une liberté de création, une liberté de réflexion qui est infinie.
Ce qui est magique aussi, c'est de se poser des questions philosophiques sans ennuyer le lecteur.
Aussi, c'est vrai. Mais c'est pas très gentil pour les philosophes.
Ça dépend lesquels. Il y en a qui arrivent
c'est
à nous
vrai.
Toucher encore, y compris aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Quand vous écrivez de la fantasy, Charlotte Bousquet, est-ce que vous êtes à peu près dans le même état d'esprit que quand vous écrivez un roman historique ou est-ce que c'est vraiment différent ?
C'est complètement différent. Parce que bon, déjà, mes romans historiques s'adressent à un public un peu plus jeune. Donc, je m'auto-censure. Enfin, c'est un peu inconscient. Mais... quand j'écris un roman de fantasy, donc j'ai mon canevas, mais je suis complètement libre de savoir à peu près ce que je fais dans l'univers. Donc j'essaie de conserver une certaine cohérence. Je vais évidemment faire des recherches, mais qui ne vont pas être des recherches historiques, mais plutôt me mettre justement dans un état d'esprit précis. Et peut-être également être beaucoup plus imprégné des personnages que dans un roman historique où je vais quand même de temps en temps me poser des questions. Là, par exemple, je suis en train d'écrire quelque chose qui se passe à Rome, qui est mais est-ce qu'elle réagirait comme ça ou est-ce qu'il réagirait comme ça ? Dans un roman de fantasy, je sais que je n'ai qu'à suivre finalement la logique du personnage et que cette logique, ça va être une part de moi-même.
Dans Gressling, Christine Cachor, donc on a dit la magie est importante, les personnages ont des dons, mais les autres utilisent aussi ces dons. Et il y a des dons rentables et d'autres qui ne le sont pas dans cette société. Et le pouvoir aussi, c'est une question centrale dans votre livre. Souvent, dans la fantaisie d'ailleurs, je pense qu'on l'a tous remarqué, la question du pouvoir, soit des individus les uns sur les autres, ou d'une société à l'encontre des individus, ou d'une menace extérieure parfois, ou intérieure, ça dépend évidemment des thèmes romanesques. Dans Grasling, l'héroïne, son don, va l'amener, sans révéler trop le roman, à être au service d'un roi, et d'un roi pas particulièrement sympathique.
Power seems to be what I'm writing about all the time. Even the book I'm writing now, which is called Bitter Blue, Bitter Blue is a character from Graceling. She's 10 in Graceling. She's 16 in the book I'm writing now.
En fait, le pouvoir semble effectivement être quelque chose de central dans les livres que j'écris. Il est très présent dans Graceling, mais il est aussi présent chez un personnage, donc dans Bitter Blue, qui est un des personnages qui avait 10 ans dans Graceling et qui, dans le nouveau roman, ce personnage aura 16 ans, donc aura grandi. Et là aussi, il y a encore un problème de pouvoir.
And Bitter Blue doesn't have any special amazing powers, but she is a queen. And there are a lot of conversations in the book, and every single conversation is a power. There's a balance of power between the people talking, and it's just.
Et donc en fait, Bitter Blue n'a pas des pouvoirs magiques, mais Bitter Blue est reine. Donc en tant que reine, elle possède un pouvoir. Et donc à l'heure actuelle, je suis en train d'écrire des dialogues, et dans la plupart des dialogues, il y a à chaque fois une espèce de confrontation de pouvoir entre les personnages qui discutent.
And I just find that I'm really drawn to character relationships that are based on the question of how power sits in the relationship. Who has the power, and how do I make sure that two people, you know, keep the necessary balance of power.
Et en fait, je me rends compte que je suis très très attirée par les échanges entre les personnages et le rôle du pouvoir entre eux. Comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir ou à rétablir un certain équilibre? Où est le pouvoir? Comment il évolue? Comment il bouge? Et comment il s'échange entre les personnages?
And I have definitely accidentally developed the theme in Graceling and Rouge of the main characters learning to take control, take ownership of their own power.
Et en fait, c'est un peu accidentellement que j'ai développé à la fois dans Graceling et dans Rouge le thème de ces personnages qui ont un pouvoir très important et qui finalement vont devoir apprendre à le maîtriser.
Le pouvoir grecquise dans Les Élus du Changelin, en particulier le premier volume, c'est le pouvoir du fleuve qui amène à la fois un certain nombre de choses à la ville, et puis aussi le pouvoir qu'a ce fleuve, qu'a l'eau, sur Perkar, le personnage qui va tenter en fait de s'en éloigner et qui est ramené en permanence là où il était. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une volonté de se poser la question de la liberté, tout simplement, des personnages, et au-delà des personnages, notre liberté?
Well, I would say that yes and no, because what keeps bringing Perkar back to the river are his own decisions.
En fait, je dirais oui et non, parce que ce qui ramène Perkar au fleuve en permanence, c'est ses propres décisions.
I mean, yeah, there are supernatural forces at work, but they wouldn't be if he hadn't done the things that he did.
En fait, oui, en effet, il y a des forces surnaturelles qui sont à l'œuvre, mais elles n'existeraient pas, elles ne fonctionneraient pas s'il n'avait pas fait les choses qu'il a faites.
And in Perkar's case, he's completely unrealistically in love with the goddess of a stream.
En fait, dans le cas de Perkar, il est de façon complètement irréelle. Enfin, il est complètement fou amoureux de la déesse du torrent qui coule près de chez lui.
And the stream flows into the river, and she's always in pain because the river is always devouring her.
Et donc, en fait, ce torrent dont il est amoureux coule jusqu'au fleuve. Donc, le fleuve la dévore en permanence, et ce qui la fait toujours souffrir.
So, a lot of what happens to him has to do with the fact that he's sworn to somehow free her or destroy the river, an unattainable goal, you know.
Et c'est une fille inatteignable, évidemment, mais il jure de la protéger, de se débrouiller pour détruire le fleuve ou détruire le pouvoir du fleuve.
But I would say that wasn't beyond that. I wasn't thinking about the concept of unavoidable fate. I think my characters end up in the situations they're in because of who they are.
Non, en fait, je pense que je ne pensais pas vraiment au destin que l'on ne peut pas éviter. Je pense que j'écris plutôt en faisant en sorte que, de toute façon, ce qui arrive aux personnages, c'est de leur faute, c'est à cause des choix qu'ils ont faits.
And even the river itself is this hungry god because people made him so.
Et même, ça concerne même le fleuve. Le fleuve est un dieu dévoreur parce que d'autres personnes l'ont rendu comme ça.
Charlotte Bousquet, chez vous, dans entre autres Arachne ou Citeriae, le pouvoir, c'est aussi le pouvoir politique, puisque, bon, on ne va pas révéler tout ce qui se passe, mais dans Citeriae, il y a une crise. Voilà, on est dans une crise, la société est en crise, il y a des gens qui se font dévorer, visiblement. Alors de quoi s'agit-il? Et la crainte s'accroît, l'angoisse monte, il y a une inquiétude, et les gens qui dirigent la ville, on ne va pas être trop précis, en quelque sorte, comment je pourrais dire, ils essaient de trouver, allez, on va lâcher le mot, des boucs émissaires. Mm-hmm. Alors déjà, quelle imagination, parce qu'on voit bien que ce n'est pas notre monde réel, ce n'est pas dans notre société civilisée,
jamais,
brillante et cultivée, où on choisirait de désigner des boucs émissaires à la collectivité. Mais dans ce monde sauvage, qui est le monde de fantasy, c'est ce qu'on fait, visiblement.
Malheureusement, oui. On trouve des boucs émissaires qui sont des personnes qui se sont réfugiées à côté de Citeriae pour échapper à une peste qui ravage leur propre principauté. Et ces réfugiés sont, selon les personnes qui dirigent, évidemment porteurs de potentiel de l'épidémie. Mais évidemment, quand on laisse mourir des gens dans la crasse, la maladie, enfin, c'est évident, de toute manière, ils ne peuvent qu'être pas bien. Quoi. C'est, je ne sais pas si le terme pas bien n'était pas très juste, mais voilà. Dans le pouvoir est toujours, enfin, est assez, dans Citeria, ils sont assez, quand même assez médiocres et barbares, parce que c'est un monde barbare.
C'est un monde aussi où il y a quand même des personnages qui, y compris dans des positions on n'imaginerait pas, je pense à un officier par exemple, c'est une femme d'ailleurs, je pense à ce nécromant qui est pourtant mal vu et qui essaie d'agir, je pense à sa compagne, on ne va pas non plus révéler trop de choses, mais un nombre de personnages qui, y compris à des places où on ne les attendrait pas, essaient de faire quelque chose pour les autres.
En général, oui, c'est ils vont agir de manière... Bon, assez isolé, mais pour soulager, pour faire bouger les choses. Un moment dans l'intrigue, il y a effectivement quelque chose qui est un peu plus brutal. Il y a des pamphlets qui sont écrits, mais sinon, disons que chaque individu, enfin, en tout cas certains des protagonistes du roman, de manière personnelle, va essayer de réfléchir à comment on pourrait faire pour changer les choses, essayer de bouger de manière à ce que effectivement ça continue pas dans cette espèce de spirale de médiocrité et de finalement qui laisse place à la destruction et au mal. Hein.
Oui, c'est vrai que vos livres sont hantés par le mal, mais là aussi j'ai l'impression que je pourrais pas donner une fausse impression en tout cas aux publics qui nous écoutent, qu'il s'agit de livres ardus, difficiles, pas du tout. C'est avant tout des livres d'aventure. Et est-ce que la magie de la fantaisie, la magie de la littérature, pour vous, d'abord, je pose la question à Charlotte Bousquet, je la poserai ensuite aux deux autres auteurs pour qu'ils nous donnent chacun leur point de vue, est-ce que la magie de la fantaisie, c'est pas aussi de nous raconter des histoires?
Si, bien sûr, oui. Des histoires qui sont à la fois, je dirais, des histoires que nous auteurs, on a aussi envie de lire, mais aussi des histoires qui font écho à une histoire plus peut-être plus générale, qu'une histoire peut-être plus humaine, et qui permettent aussi aux lecteurs de créer leurs propres histoires à partir des histoires qu'on crée. Parce qu'on crée toujours pour partager, et c'est avec la fantaisie, c'est ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'on peut ouvrir des portes à d'autres gens sur d'autres mondes et d'autres histoires.
Greg Kiss, raconter des histoires, passionner le lecteur et pas seulement évidemment avoir des idées ou faire passer des idées. Vous êtes avant tout un raconteur d'histoires.
Sure. I mean, I agree. I mean, that if you think about it, until quite recently, almost all of our stories had magic in them. Almost all of our stories had magic in them.
Oui, en fait, c'est tout à fait vrai. En fait, j'ai toujours fait ça, plus ou moins, à raconter des histoires de magie et de fantasy.
Yeah, I mean, any of the Greek, as you said, anything, any of the Greek myths, Shakespeare, La Chanson de Roland, you know, these all had magic. The separation literature that was devoid of magic actually happened relatively recently.
Oui, en fait, en effet, on trouve de la magie dans La Chanson de Roland, on trouve de la magie dans Shakespeare. En fait, la séparation n'a été que récente.
But no, I think I like to think that primarily I'm a storyteller.
Mais oui, je pense que j'aime à penser que de façon primaire, basique, je suis un conteur, un raconteur d'histoire.
And you know, I think that my earliest real experience with storytelling was actually oral storytelling in my family.
Ouais, en fait, les premières expériences que j'ai eues avec des conteurs étaient des expériences avec des gens qui racontaient des histoires dans ma propre famille.
And I think of writing as an extension of that.
Et en fait, le fait que j'écrive, ce n'est qu'une extension de cette histoire familiale de conteur.
Christine Cachor, est-ce que vous aussi vous accepteriez cette définition, à la fois pour la fantaisie, pour votre travail d'écrivain, plutôt d'écrivaine, puisqu'on dit comme ça au Québec aussi. Est-ce que pour vous, c'est raconter des histoires qui est primordial, même si évidemment vous avez envie, comme tout le monde, de faire passer des choses à vos lecteurs, de leur parler, il y a aussi un échange, mais est-ce que c'est pas quand même l'histoire avant tout, le plaisir de faire plaisir aux lecteurs?
Yes, definitely. A story is for me, I'm not just a storyteller, I'm a story lover. And stories are kind of the way that I even examine my own life. I understand what's happening in my life. I'm sorry, go ahead.
Donc oui, évidemment, et j'aime à penser que je suis pas seulement une raconteuse d'histoires, mais une amoureuse d'histoires. Et ces histoires que je raconte, c'est des choses qui naissent en moi.
If I can kind of examine the story of what's happening in my life or a friend's life or whatever, I just suddenly understand it so much better.
Et lorsque je regarde, par exemple, l'histoire de ma vie, l'histoire de la vie de mes amis, ça me permet de la comprendre beaucoup mieux.
And for example, last week, I don't remember what I was anxious and worried about, but there was something that was upsetting me.
Et par exemple, la semaine dernière, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je me sentais angoissée, oppressée. Il y avait quelque chose qui n'allait pas.
And I couldn't figure out how to face this thing until I just happened to stumble upon a poem that had the line about someone pulling magic out of their pocket.
Et en fait, je n'arrivais pas à savoir jusqu'à ce que je tombe sur un poème et qui avait en fait une strophe qui évoquait quelqu'un qui sortait de la magie de sa poche.
And suddenly I had my courage because I knew, well, all I have to do is pull the magic out of my pocket and I'll do it.
Et d'un coup, ça m'a donné du courage parce que je me suis dit, bah voilà, t'as juste qu'à sortir la magie de ta poche.
So, story is just, I mean, maybe I'm a little too addicted to story.
Et donc voilà, l'histoire c'est vraiment l'essentiel, c'est ça qui fait qu'on va avancer, quoi.
J'espère que vous n'étiez pas angoissée, Christine Cachor, de venir aux Imagines.
Just hoping you were not anxious about coming to
Oh no, no, I was happy about that.
Oui, une dernière question sur la magie de la fantaisie. Ces littératures, on l'entend quand même, elles le sont encore chez certains, mais qui sont de moins en moins écoutées, en tout cas du public. Elles ont longtemps eu mauvaise presse, étaient considérées comme mineures. Et malgré tout, vous avez choisi ces littératures-là. Vous avez choisi de raconter ces histoires-là. Pourquoi le choix de la fantaisie, Greg Kiss?
I think I chose to write fantasy primarily. Well, the primary reason was because that's what I like to read.
Bon, je pense que la raison première pour laquelle j'ai décidé d'écrire de la fantasy, c'est parce que j'aimais lire de la fantasy.
But beyond that, you know, the research that I did as an anthropologist, you know, in studying and collecting myths and legends.
Mais au-delà de ça, de toute façon, les études d'anthropologie que j'ai faites, qui consistaient aussi à collecter des mythologies, des histoires, des légendes.
In my academic work, had to be treated in a very dry and professional manner.
Et dans un travail académique comme ça, les mythologies, tout ça, c'est traité de façon assez sèche, assez professionnelle et oui, sèche, ouais.
But the, you know, doing these things gave me all these other ideas that had no place in an academic paper, and what was I going to do with them?
Et donc évidemment, quand je travaillais là-dessus sur mes études d'anthropologie, ça me donnait des idées. J'avais des idées. Je savais quoi faire avec ces choses-là. Mais évidemment, je ne pouvais pas mettre ça dans un devoir d'anthropologie. Donc, j'ai dû trouver un autre moyen de les utiliser.
Ultimately, it goes back to storytelling and the kinds of stories I want to tell. And these are the kinds of stories I want to tell.
En fait, ça revient juste à raconter des histoires. Et évidemment, on raconte les histoires qu'on a envie d'entendre.
Charlotte Bousquet, vous aviez tout pour faire une carrière universitaire, sérieuse, une philosophe, enfin bref, vous adressez à peu de gens et tout. Et non, vous racontez des histoires aux adultes, aux adolescents, des histoires de magie, des histoires de villes mystérieuses, des histoires de pouvoir. En un mot, de la fantaisie, vous avez fait le choix de vous en canailler alors.
Oui. En fait, j'avais une thèse qui était transversale à plusieurs choses, à la philosophie, à la psychanalyse et aussi à la littérature. Donc j'avais osé parler de vampires, j'avais osé parler de fantaisie. Et là, j'ai cru que le jour de ma soutenance, il y avait à avoir un arrêt cardiaque. Et finalement, je me suis dit que plutôt que de provoquer des morts, je les préférais dans les histoires que j'écris plutôt que dans la réalité. Et surtout, je me suis rendu compte que, déjà, j'étais lectrice de fantasy et de fantastique. C'est que ça n'empêche pas de faire passer des idées. C'est qu'on raconte les histoires qu'on a envie de raconter, qu'on ouvre toutes les portes qu'on veut, mais aussi de manière, enfin, dans l'écriture, il y a un plaisir et une liberté dans l'écriture des récits de fantasy que je crois qu'on ne trouve pas forcément toujours ailleurs.
Christine Cachor, c'est aussi cette aspiration à la liberté qui vous a poussé à écrire de la fantasy?
I think so. I'm an incurable daydreamer.
Oui, je pense. Moi, déjà, je suis une rêveuse incurable.
And you know, when these characters came to me, I had a woman who could fight inhumanly well.
Et quand déjà j'ai ce personnage qui m'est venu d'une femme qui pouvait combattre aussi tellement bien que ça n'était pas humain.
I had a young man who can read minds.
J'avais un jeune homme qui pouvait lire dans l'esprit des autres.
And I had an evil person who could control minds.
Et puis j'ai un personnage de méchant qui pouvait contrôler les esprits.
So it was obvious that I didn't have any choice. I couldn't write anything but fantasy with those characters. And they were the ones that were engaging my mind, so I had to tell their story.
Et donc ces personnages-là hantaient mon esprit, et j'avais pas d'autre solution que d'écrire de la fantasy pour raconter leurs histoires.
Ça va être l'occasion de découvrir, puisque notre premier café littéraire est suivi, comme toujours aux Imaginales, d'une rencontre de signature avec nos auteurs. Alors, Gressling et Rouge, les deux premiers romans traduits de Christine Cachor. La série du fleuve et bien d'autres livres publiés auparavant de Greg Kiss. Et puis Charlotte Bousquet, Arachnae, Citeriae. Et puis d'autres aussi que vous pourrez trouver, entre autres en littérature jeunesse et romans historiques. En tout cas, merci à nos auteurs d'avoir été avec nous pour ce premier café littéraire. On se met en route, on débute. Il semblerait peut-être que même on aurait un peu de soleil tout à l'heure, ou demain, on verra. En tout cas, la magie de la littérature me semble là comme chaque année. La magie des écrivains est là grâce à vous. Et merci d'avoir été de ce premier café littéraire. À vous maintenant de commencer à faire provision de livres. Parce que la magie se poursuivra jusqu'à l'année prochaine, déjà pendant 3 jours et demi. Bonheur pour vous tous, mais aussi dans les livres que vous pourrez vous procurer de nos invités. Merci.
Thank you.